Bonjour à tous. voilà, donc j'ai un petit moment pour me présenter. C'est toujours un exercice un petit peu difficile de s'auto-interviewer. Cela dit, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Donc, je suis partie du principe que c'était intéressant d'abord de se présenter. Donc, moi, j'habite dans la région bordelaise, Léognan en particulier. Je travaille comme journaliste dans le secteur de la vigne et du vin. Donc, je suis scientifique au départ, puisque j'ai fait une formation agro. Et en dehors des articles de presse écrite, je travaille avec un éditeur qui s'appelle le Papillon Rouge Éditeur, qui est basé à Montpellier. Et c'est le deuxième livre que je rédige avec cet éditeur. Le premier est paru il y a 2 ans, qui s'appelle donc Histoire vraie en Aquitaine. Ça correspond à une collection. Donc vous irez voir sur le site qui est facilement accessible de l'éditeur. Et donc, comme la première aventure s'était relativement bien passée, on a discuté, puisque l'éditeur est lui-même de formation scientifique. Aussi sa femme d'ailleurs qui est œnologue et tous les deux on a trouvé que cette idée de travailler sur le rôle du hasard dans les découvertes scientifiques pouvait être un point intéressant. On avait tous en tête la découverte de la pénicilline avec plus ou moins de précision. Et puis on s'est dit, on va finir par en trouver 50. Donc on en a trouvé 50, je pense qu'on pourra en trouver beaucoup plus. En sachant que ce hasard est parfois revendiqué par les chercheurs, par les scientifiques, et parfois il ne l'est pas du tout. Alors parfois, quand il est revendiqué, il y a certains exemples que je traite où il est revendiqué de façon très officielle, même dans les discours de remise des prix au moment des prix Nobel. Alors, il y a quelques exemples, je suis allée sur les sites, le site du prix Nobel, je ne sais plus lequel, il y en a quelques-uns, où c'est dit de façon très très explicite que le hasard a été au départ de la découverte. Alors, dans un premier temps, la question aussi était de savoir comment est-ce qu'on définissait le hasard. Et donc là, dans le livre, j'en parle un petit peu, parce qu'en fait, le hasard, il peut prendre plein de formes. On a donc l'exemple de Fleming, où il y a eu un courant d'air. Il y a des exemples où il y a eu un rêve prémonitoire, notamment pour la découverte de l'existence des neurotransmetteurs. C'est un rêve prémonitoire et puis le scientifique en question a oublié de noter son rêve quand il s'est réveillé, quand il était dans la phase de réveil, et il était furieux parce qu'il a perdu toute l'idée, tout le dispositif expérimental qu'il avait imaginé dans son sommeil et qui était le fruit certainement d'une réflexion beaucoup plus lointaine. Et coup de chance pour lui parce que la deuxième nuit il a à nouveau rêvé. Et cette fois-ci, il avait pris ses précautions et donc il a noté tout ce qu'il fallait faire. Et donc c'est grâce à cette expérimentation qu'il a prouvé l'existence des neurotransmetteurs, donc la partie chimique de la transmission de l'influx nerveux. Donc voilà, ça c'est un premier exemple. On a aussi en tête des erreurs de manipulation. Alors j'ai des choses un peu plus ardues. Moi, je suis quand même plutôt sur la biologie au départ de par ma formation, donc c'est quand même les idées, les exemples sur la biologie m'étaient plus accessibles, mais j'ai eu la chance de rencontrer parfois certains scientifiques qui m'ont donné des pistes sur d'autres thématiques. Et l'exemple par exemple de la supraconductivité, donc qui a été découverte il n'y a pas très longtemps, et c'est pareil, il y a eu une erreur de manipulation, enfin, il y a eu un double hasard. La supraconductivité, c'est le fait qu'à une certaine température très très basse, en fait, les métaux deviennent conducteurs très très rapidement. Et donc là, c'est pareil, il y a eu une erreur de manipulation à un moment donné. Pour tout ce qui est polymère conducteur, c'est la même chose. Donc il y a plein d'exemples comme ça où on cherche dans une direction et si on a, comme disait Pasteur, l'esprit ouvert et à la limite l'esprit très scientifique, on est capable de repérer l'anomalie qui va faire la grande découverte de la suite. Alors à titre d'exemple, il y en a une qui me plaît beaucoup, c'est celle que j'ai appelée, parce que je me suis amusée aussi dans les titres, j'ai essayé de donner des titres un petit peu humoristiques. Donc il y en a une que j'ai appelée « Goûtez-moi ce petit jus de grenouille ». Et donc, c'est pour illustrer le fait que... Donc ça, c'est une histoire qui se passait dans les années 80, donc c'est quand même relativement récent. Et donc il y avait un chercheur aux États-Unis qui travaillait plus dans le domaine de la génétique pour essayer d'identifier la façon dont pouvait se transmettre certaines maladies, et notamment la mucoviscidose. Et en fait, il travaillait sur des grenouilles, c'est classique. Et il prenait les œufs de grenouilles, il retravaillait les œufs, et il mettait les grenouilles à nouveau sans forcément les recoudre dans de l'eau qui était relativement sale au niveau microbiologique, on va dire. Et il a fait ses expérimentations pendant des années. Et un jour, eh ben, je pense que mentalement, il avait dû faire ça, avait dû faire son chemin. Il s'est dit, mais ces grenouilles, elles sont quand même sacrément costauds, parce que leur mortalité, même blessées comme elles étaient, dans l'eau, était très faible. Et c'est à partir de là qu'il est allé regarder, donc ses recherches ont dévié, on va dire, et c'est à partir de là qu'il est allé regarder ce qui se passait. Et donc c'est le point de départ, cette observation, de la découverte d'une grande famille, qu'on appelle les PAM, donc c'est les peptides antimicrobiens, qui aujourd'hui n'ont pas encore de développement médical, mais pour lesquels il y a quand même beaucoup d'espoir d'essayer de trouver... peut-être pas des molécules qui remplacent, mais tout au moins des molécules qui permettent de lutter contre ce pourquoi les antibiotiques maintenant sont moins efficaces. Voilà, donc ça c'est un exemple qui me paraissait intéressant. Alors j'ai essayé d'imaginer, pour vous présenter les choses, où est-ce que les questions, j'ai essayé d'anticiper les questions que vous auriez pu me poser. Alors j'ai listé aussi dans les sciences celles sur lesquelles il y a beaucoup beaucoup de hasards et qui malheureusement ne sont pas dans ce livre, à savoir donc l'astrophysique. Donc quand j'ai fait les recherches, j'ai d'abord travaillé sur Internet, j'ai identifié des thématiques. Et puis après, j'ai cherché sur des bases documentaires qui regroupent toutes les bibliothèques universitaires, en fait, les documents auxquels je pouvais avoir accès, donc soit à Bordeaux, soit à Paris. Donc je me suis bien promenée je me suis bien amusée, moi, d'aller dans les bibliothèques du style à la Sorbonne, où on se serait cru dans Harry Potter, et puis celle de Tolbiac, où là, pour le coup, on est plutôt dans l'ambiance Brésil, très high-tech. Donc déjà, c'est intéressant. Et quand je suis allée chez les astrophysiciens, j'ai trouvé une documentaliste charmante, mais j'ai eu beau retourner, et avec elle, j'ai identifié beaucoup, beaucoup de découvertes liées au hasard en astrophysique. Et j'ai eu beau retourner dans tous les sens. Alors peut-être que quelqu'un pourra me donner un éclairage, mais je n'ai pas réussi à trouver le moyen de présenter ça de façon, on va dire, accessible, ludique. Voilà. Pour donner à voir, j'ai eu beaucoup de mal, quoi. Donc l'astrophysique, malheureusement, est une des sciences qui n'est pas traitée dans ce livre. Ensuite, il y a pas mal de choses en médecine, parce qu'en fait, quand il y a des expérimentations qui sont faites, il y a tout de suite des observations et des choses qui sont notées. Donc, c'est un domaine où il y a eu beaucoup de découvertes liées au hasard. Alors, en médecine, dans les 50 chroniques, il y en a deux qui m'ont particulièrement tenu à cœur. C'est deux histoires où, pour résumer, on part d'une machine de guerre, on va dire, et où on aboutit à une grande découverte pour la médecine. Donc c'est quand même un peu contradictoire. Donc la première, c'est dans l'ordre chronologique, la plus ancienne, c'est la découverte de l'iode. Donc au départ, c'était l'industrie pour fabriquer la poudre à canon. Qui avait besoin d'utiliser du bois au départ, carbonisé. Et comme le bois venait à manquer, à un moment donné, ils ont brûlé des algues. Et en brûlant ça, ils ont découvert une matière violette qui a été analysé et qui s'est retrouvé de l'iode. Et on connaît toute l'utilisation médicale de l'iode. Donc c'était quand même intéressant de voir qu'au départ, c'était pour fabriquer un produit qui était fait pour tuer et qu'à l'arrivée, on a quand même trouvé quelque chose pour soigner les gens. Et la plus dramatique dans ce même genre, elle est encore plus récente parce qu'elle est liée... elle est connue. Alors, je ne sais pas si elle est si connue que ça, en fait. C'est celle que j'ai appelée médicament de combat. Et en fait, c'est l'utilisation des fameux gaz qui s'appelaient les hypérites, je crois, ces fameux gaz qui ont été utilisés pendant la Première Guerre mondiale. Et qui, grâce à un malheureux hasard, parce que là, pour le coup, ça a été un drame, en 1943, se sont retrouvés dans un bateau qui était donc en préparation d'une contre-attaque éventuelle dans un bateau allié, donc en préparation d'une contre-attaque éventuelle de l'armée allemande. Ils se sont trouvés dans un bateau qui était dans le port de Bari, en Italie, et il y a eu un raid aérien important contre la flotte alliée. Et ce bateau a coulé corps et biens, au même titre qu'une dizaine d'autres bateaux. Et la cargaison était secrète. Donc, en fait, la cargaison a empoisonné la baie. Il y a des marins qui sont tombés à l'eau. Et comme on ne savait pas qu'il y avait ces gaz qui étaient toxiques, eh bien, ils ont été au contact. Tous ces marins qui sont tombés ont été au contact de cette matière. Et les médecins ont rapidement, dès le lendemain, constaté tous les symptômes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a quelques-uns qui ont fait le lien entre les symptômes qui avaient été décrits pendant la Première Guerre mondiale et ce qu'ils voyaient là. Et ils ont fait quelques analyses. Alors, ce qui est dramatique, c'est que les militaires en question ont, pour une bonne partie, été tenus... ils ont été dispatchés après. Enfin, tout ça, c'est quand même resté quelque part un secret militaire, mais malgré tout, la médecine a fait son œuvre. Et quand ils ont fait des calculs, enfin des analyses, ils se sont rendus compte qu'il y avait un effet par rapport aux globules blancs. Et quelqu'un s'est dit, ben peut-être qu'on pourrait tester ces produits ou essayer de travailler dans cette direction-là. Et le fait est que ce drame a permis effectivement de développer une première famille de médicaments qui ont été les premiers à pour la chimiothérapie. Donc là aussi, comme pour l'iode, c'est quand même assez intéressant de noter que parfois il y a des machines de guerre qui conduisent à des découvertes qui peuvent quand même être bénéfiques malgré tout. Bon, après, chacun en juge, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme alors moi il y a une histoire que j'aime beaucoup parce que elle est intéressante. Alors on l'a, bon, c'est pas vraiment une découverte scientifique, c'est plutôt une invention, on va dire, et elle est intéressante parce qu'elle a un prolongement aujourd'hui d'ailleurs, enfin je vous en parlerai après. C'est la fameuse découverte du velcro. Donc on a souvent en tête le velcro, quand on cherche un peu le hasard, tout ça, on dit oh, le velcro, donc c'est un Suisse qui, après les années 40, était parti se promener dans la montagne avec son chien. Et quand il est revenu, donc il avait cette boule, dont on a tous eu ça, les petites boules d'une plante, les graines d'une plante qui étaient accrochées à tous ses vêtements. Et ce monsieur, donc, était déjà inventeur. Il a eu la curiosité, parce que c'est cette curiosité qui est quand même le moteur de départ, de regarder. Il a vu sous son microscope, il a vu tous ses crochets. Et souvent, l'histoire, elle se résume à dire, ben voilà, il a vu les crochets, et c'est comme ça qu'a été inventé le velcro. Alors moi, j'ai voulu creuser un petit peu plus, parce que le parcours m'intéressait. Donc j'ai essayé d'identifier qui était ce monsieur, d'où il venait. Et il se trouve que je suis arrivée donc jusqu'à l'école. Donc il avait fait la fameuse école polytechnique de Lausanne. Et à cette école polytechnique de Lausanne, j'ai cherché des documents. Je suis tombée sur la responsable de communication, qui se trouve être une jeune femme charmante qui est d'origine bordelaise. Donc ça m'a un petit peu facilité les choses. Et donc je suis allée j'ai contacté la famille, j'ai contacté un musée, donc j'ai récupéré toutes ces informations. J'ai réussi à essayer de mettre en avant le fait que cette découverte, finalement le velcro n'était né que 20 ans plus tard, parce qu'à partir de l'observation, il a fallu trouver le matériau qui s'y prêtait, trouver les machines qui permettaient de fabriquer ces tissés, mais ces tissés, puis c'est coupé au ras comme une petite tondeuse à gazon pour que les deux parties puissent se coller. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est que les industriels qui lui avaient fait confiance pour faire les prototypes, ils n'étaient pas très chauds pour la partie vente, parce qu'ils pensaient, alors aujourd'hui ça nous fait un peu rire, mais ils pensaient qu'au départ c'était quelque chose qui n'aurait aucun avenir. Et le déclic est venu quand il y a eu les premiers hommes qui ont marché sur la Lune, et où alors je suis retournée voir les premières photos, et effectivement on voit qui se baisse, qui ramasse, et qu'il a une poche, et c'est maintenant on fait peut-être plus attention, mais apparemment ça a choqué les esprits. On a vu que la poche est, dans laquelle il avait glissé des pierres, était une poche comme ça qui se scratchait, comme on dit. Et donc ça a été vraiment le déclic qui a permis de développer le produit. Et alors, ce qui est un petit clin d'œil, c'est qu'aujourd'hui, alors j'ai découvert ça, je ne sais plus si c'est en Australie ou dans un pays, il y a des jeux, comme on invente un peu tout et n'importe quoi, où les gens s'habillent avec une combinaison d'une des deux parties du velcro et sautent sur des trampolines. Et le but, c'est qu'il y a un mur en face avec l'autre partie du velcro, et c'est de se coller le plus haut possible, quoi. Alors c'est vrai que, voilà, donc moi j'ai trouvé ça intéressant de tout développer, pour mettre en évidence que c'était pas juste, il y a eu le hasard, une observation, et le développement s'est fait, quoi. Pour Fleming, c'est la même chose, parce qu'il a mis en avant la pénicilline, enfin le pénicillium actif contre les staphylocoques en 1928, et les premiers antibiotiques, ils ont mis 20 ans, ils ont refait des recherches, etc. Et puis c'est pas un seul homme non plus. Donc c'est ça qui me paraissait intéressant. Et là où c'est... Allez-y. Ah, il a inventé plein de choses. Oui, non, mais au départ, il travaillait aussi sur d'autres antimicrobiens. Mais il avait effectivement découvert le lysozyme, qui est un antimicrobien, avant le pénicillium. Mais le lysozyme n'était pas. Donc, qui est d'ailleurs utilisé en œnologie aussi aujourd'hui, en tant qu'antimicrobien. Bon, ça, c'est une autre partie. Mais qui n'était pas efficace sur les microbes pathogènes, en fait, quoi. Donc, pas suffisamment efficace, quoi. Celle que j'ai beaucoup aimée aussi, c'est celle qui concerne la découverte de la pile, donc la pile Volta. Donc là on est 1800, donc la pile, parce que c'est un empilement de plaques, hein. Donc là où c'est intéressant aussi, c'est que c'est le résultat qu'on met en avant aussi, et qui est toujours d'actualité dans la science, controverse scientifique pendant plus de 20 ans entre Galvani, qui lui avait fait, comme on disait, revivre les tissus morts des grenouilles, et Volta qui disait non, la grenouille n'est qu'un intermédiaire, et qui lui a essayé de faire la même expérience en enlevant la grenouille, et qui a prouvé que l'électricité c'était un échange d'ion, hein, et dans du sel, et qu'effectivement le tissu de la grenouille n'y était pour rien. Mais ils ont mis 20 ans, et ils ont pendant 20 ans, et ces controverses, elles existent toujours. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir du moment où donc Galvani, avec son électricité animale, est arrivé sur le devant de la scène, ça a quand même assez bouleversé les esprits. Et donc c'est suite à ça que, quelques années plus tard quand même, mais Mary Shelley a écrit son fameux Frankenstein, et on était vraiment dans le prolongement de cette idée-là. Et moi, ce qui me paraissait intéressant, c'était aussi de montrer que à partir du moment où il y avait des avancées scientifiques intéressantes, qui frappaient les esprits, les créateurs en tout genre, là c'est écrivain, mais ça peut aussi être plasticien ou autre, s'empare de la chose et montre qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence, ou éveille les esprits sur comment la chose va pouvoir s'approprier, va pouvoir être appropriée dans la vie au quotidien ou pas, ou enfin voilà, qu'est-ce que ça peut changer. Et donc cette histoire-là me paraissait intéressante pour ça. Et qu'est-ce que j'avais envie de vous dire aussi ? J'avais envie de vous dire aussi que il y avait un prolongement. Bon, ça, c'est peut-être par rapport à la pile, c'est le plus évident. Un prolongement qui me paraissait intéressant aussi, c'est que ça met en évidence l'intérêt de l'histoire des sciences. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu, et c'est aussi pour ça que quand il y a eu le projet d'écrire ce livre avec l'éditeur, on a tous les deux convenu que c'était un sujet intéressant. Et j'en ai discuté avec le prof de physique de mon fils qui est au lycée des Graves. Et cette façon d'apporter un peu la formation en parallèle entre l'histoire et l'histoire des sciences, moi je trouve ça dommage que ce soit pas plus enseigné. Il y a une personnalisation des choses qui peut permettre de mémoriser peut-être plus facilement pour les élèves ou pour les lycéens. Et c'est vrai que l'histoire, on a souvent les grandes logiques politiques, militaires, ça, mais la science, quand l'électricité est arrivée, c'est quand même un élément énorme pour expliquer pourquoi l'histoire a évolué dans tel et tel sens après, quoi. Et peut-être que ça, c'est un volet qui pourrait être soumis, je ne sais pas à qui, mais aux enseignants, s'ils peuvent peut-être encore alourdir leur programme. Ce n'est pas forcément évident. Quoi d'autre ? J'ai bien envie de vous laisser la parole, parce que j'ai fait pas mal... La thématique... Parce que bon, le livre est sorti au mois de mai, et j'ai été contactée par Europe 1. Alors, c'est un coup de chance, je suis passée à Europe 1 le jour de mes 50 ans, pour 50 histoires. Donc, je leur ai pas amené le champagne, parce que c'était tôt le matin, mais c'était quand même une belle aventure. Et pareil, à France Info, j'ai discuté avec Marie Dilmonchico pendant toute une matinée, on a fait une chronique. Et ce hasard dans les découvertes, en fait, aujourd'hui, il est revenu sur le devant de la scène par rapport à un mot qui est donc arrivé dans le dictionnaire cette année. Parce que moi, j'ai eu le communiqué de presse, je ne sais plus si c'est Robert ou Larousse, mais bon, il faudrait. Donc, c'est ce fameux terme qui s'appelle sérendipité, qui est très à la mode, et qui, lui, était dans le dictionnaire anglais depuis longtemps. Donc, il y a un petit peu d'histoire en préface du livre, je rappelle d'où ça vient. Et. En fait, je pense que c'est à nouveau un petit peu, entre guillemets, à la mode, parce que c'est en lien avec la façon dont on recherche l'information aujourd'hui, avec tous ces moteurs de recherche informatique, et où, sur une recherche donnée, on va se retrouver, on l'a tous expérimenté, au bout d'un quart d'heure, sur un thème qu'on n'avait absolument pas identifié un quart d'heure avant, et qui va bigrement nous intéresser. Alors, moi, je mets un bémol là-dessus, parce que je suis la première à partir comme ça, et c'est vrai qu'il y a deux ou trois histoires qui sont racontées dans ce livre, qui ont été découvertes, que j'ai découvertes comme ça. Je cherchais, par exemple, la vitrocéramique, j'ai découvert que ça avait été une erreur de manipulation dans la fabrication du verre, on va faire simple, alors que je cherchais autre chose, et que j'ai pas trouvé, j'ai cherché sur l'acier, enfin voilà. Mais malgré tout, je mets un bémol sur cette histoire de recherche du hasard, parce que on sait très bien. Les moteurs de recherche sont des grands, grands logiciels, et ils orientent l'information. Et pour eux, il n'y a pas de hasard, quoi. Hein. Donc, on le sait quand on gère des blogs, il faut essayer de percer la façon dont ces logiciels de recherche sont leur logique pour pouvoir améliorer le référencement. Donc, il n'y a pas de hasard. On peut être dans le fond du référencement et faire des choses très intéressantes, et on n'arrivera jamais en haut. Donc, ça aussi, c'est une thématique importante. D'ailleurs, c'est une thématique qui est sur le devant de la scène au niveau de l'actualité aujourd'hui. Avec la presse, quoi, qui a une partie de son lectorat qui arrive via ce référencement-là, et c'est un échange, quoi. Donc, on est dans une logique économique, quoi. Et je lisais il n'y a pas très longtemps, bon, ça c'est une petite aparté, que le New York Times avait revendu sa version web, puisqu'ils s'étaient lancés, pour cash pratiquement 300 millions de dollars, si mes souvenirs sont bons. Donc j'ai lu ça au mois d'août, parce que leur référencement n'était pas bon. Donc quand les gens cherchaient, ils n'arrivaient pas facilement sur des articles d'actualité qui doivent être traités par le journal, même s'ils ne sont pas traités de la même façon que sur la version print du journal. Ils n'arrivaient pas en référencement en haut. Et l'explication, c'était que le moteur de recherche appartenait à leur principal concurrent. Donc c'est pour ça que le terme de hasard est à relativiser. Et pour en revenir, donc ça c'est la parenthèse est terminée là-dessus, pour en revenir à la recherche et à la science, en travaillant ce livre, je suis arrivée jusqu'à une publication du CNRS qui parlait du fait que ce hasard dans les recherches scientifiques était, dans certains pays, reconnu comme une valeur importante, tant et si bien que je crois que c'est aux Pays-Bas où les chercheurs, alors est-ce que c'est toutes les spécialités, je ne sais pas, mais certains ont une après-midi de libre, je ne sais plus comment ils l'appellent, pour se consacrer à des recherches personnelles. Et c'est vrai que par rapport à la recherche, c'est quand même intéressant de noter que même s'il y a des hasards aujourd'hui, les chercheurs aujourd'hui cherchent quand même dans des grands programmes, et peut-être que la part du hasard qui peut être valorisée est un petit peu délaissée, parce que tout est cadré, on est sur des cadres de financement, des choses, bon, à réfléchir aussi, voilà.